Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. C'est donc un non. Alger rejette la liste de ressortissants algériens que la France voulait expulser, une liste de 60 personnes indésirables. Paris avait fixé un ultimatum, soit les autorités algériennes acceptaient, soit elles refusaient avec toutes les conséquences que ça implique. Rien à faire, répond Alger, place au bras de fer, retorque ce soir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui annonce chez nos confrères de France Inter qu'il va déclencher la riposte graduée qui va se traduire par la suspension des accords de 2007 pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. Guillaume Fard nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors déjà, soyons précis, en quoi consistent ces accords de 2007? Comment ça va se traduire et est-ce que c'est un levier de pression important?
En fait, sont des accords qui, comme vous venez de le rappeler, concernent les diplomates algériens et quand ils bénéficient donc d'un passeport diplomatique, ce qui est assez classique pour un diplomate, ils ont une exemption de visa, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à solliciter de visa de la France pour venir en France. Donc c'est une facilité de déplacement qu'on leur accorde, évidemment, moyennant réciprocité aussi. C'est-à-dire, pour nos diplomates français, il y a une facilité ainsi à se rendre.
Donc, j'imagine qu'il y aura une réponse d'Alger dans le sens inverse.
C'est fortement.
Qui va aussi geler les visas en la matière.
C'est fortement probable. Maintenant, le fait de leur imposer de passer par la case visa, c'est des lourdeurs administratives supplémentaires.
Mais c'est un vrai coup de pression?
Disons que c'est pas un geste très amical dans le monde feutré des relations diplomatiques. Ça veut dire que si vous voulez venir en France concrètement, ça va demander un délai plus important. Les préavis sont allongés. Vous pouvez pas, sur un préavis plus court, décider que vous montez dans un avion et que vous venez en France. Donc, si vous avez affaire en France, que vous appartenez à une certaine intelligentsia algérienne, proche du pouvoir, titulaire de passeport diplomatique, puisque le passeport diplomatique, c'est pas toujours qu'au diplomate et au seul diplomate qu'il est décerné ou délivré. Et donc, en fait, vous n'allez plus pouvoir venir aussi facilement en France. Donc, c'est une façon de faire monter doucement la pression en disant, typiquement, vous êtes tel dignitaire algérien ou proche du régime, vous êtes la femme de tel haut fonctionnaire.
Oui, il vous faudra désormais un
vous
visa,
êtes
le passeport diplomatique ne suffira plus.
Voilà, exactement. Et donc, vous devrez prévoir votre voyage plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, et ce sera au bon vouloir des autorités françaises qui pourront vous refuser le visa.
Juste pour comprendre la portée de cette décision, Roselyne, Guillaume disait c'est pas un geste très amical vis-à-vis du pouvoir algérien. Est-ce que c'est de nature à aggraver encore et de façon significative la dégradation des relations?
Encore dans l'aggravation des relations avec l'Algérie, il y a visiblement un bras de fer qui est d'ailleurs tenu beaucoup pour des raisons de politique intérieure et de politique vis-à-vis de la diaspora algérienne en France. C'est vrai que ça va compliquer les choses parce que des mesures de réciprocité, la famille, les conjoints des diplomates français n'ont pas beaucoup envie d'aller faire leurs courses en Algérie. C'est pas la même chose de l'autre côté. Pardon pour cette réflexion. Bon, très bien. C'est vrai aussi que là, Bruno Retailleau, mais François Bayrou récolte les fruits d'une certaine ambiguïté. Vous connaissez la phrase du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Quand ça a commencé à chauffer avec l'Algérie, qui a refusé le premier OQTF, il a sans doute manqué de fermeté dans la réponse en disant
et
il y a
un délai,
on va regarder.
Et on paye ça aujourd'hui, on paye
regarder.
Le fait que Bayrou n'ait
et
pas été assez ferme.
La situation est en train de pourrir, là. Ça, c'est tout à fait certain.
Et jusqu'où elle va pourrir? Quelles conséquences et quelle pourrait être la suite? Parce que quand on parle de riposte graduée, ça veut dire que là, on est à la première étape, on verra les étapes ultérieures. Juste avant de vous donner la parole, Christophe et Yves, sur cette liste, précisément, il y a qui sur ces 60 ressortissants algériens dont la France veut se débarrasser?
Alors, ce sont ceux qui présentent une menace. En tout cas, c'est comme ça que le ministre de l'Intérieur l'a présenté. Il y a, parmi les ressortissants algériens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, un certain nombre d'entre eux qui sont très défavorablement connus, soit pour des faits de délinquance, soit pour représenter une menace à caractère terroriste. Typiquement, l'auteur de l'attentat de Mulhouse le 22 février dernier, s'il n'était pas passé avec le 22 février, aurait figuré assez logiquement sur cette liste parce que radicalisé, parce que déjà condamné une première fois pour des faits de terrorisme et donc on avait envie de le renvoyer aux Algériens. Donc il a pris volontairement 60 personnes qui présentent un trouble grave.
Ce ne sont pas des simples gens qui n'ont pas des papiers réguliers.
Ouais, exactement.
Ce sont vraiment des délinquants.
C'est des profils vraiment ciblés.
Et l'Algérie, assez logiquement au regard de la dégradation des relations diplomatiques, dit non, mais on ne prend pas à titre exceptionnel cette liste, il faut passer par les voies régulières première, c'est-à-dire les discussions qui sont lentes, longues et assez incertaines dans leur issue, entre les préfectures d'un côté et les représentations consulaires de l'autre.
Faut rappeler qu'il avait fixé un ultimatum, Bruno Retailleau qui avait fixé donc un ultimatum de 6 semaines en disant voilà, je vous laisse Alger 6 semaines pour nous donner une réponse sur cette liste et si à la fin vous n'allez pas dans notre sens, les sanctions tomberont. C'était à prévoir que l'Algérie ne reprendrait pas ses 60 ressortissants.
Pour pas mal connaître les autorités algériennes, dont le président algérien, Monsieur Tebboune, c'était tout à fait prévisible. Tout à fait prévisible. Pour compléter ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'ils ont réagi déjà. Enfin, il y a un communiqué qui est tombé du ministère de l'Intérieur, de l'homologue de Monsieur Retailleau, qui explique pourquoi. Et c'est extraordinaire. Ils disent parce que Monsieur Retailleau n'a pas respecté les procédures d'usage. C'est-à-dire que normalement, c'est la préfecture qui doit décider les ressortissants algériens qui sont à renvoyer chez eux.
On a bien vu que ça coinçait dernières années. Donc bon.
Il y a deux lectures qu'il faut faire, à mon avis, de cette affaire. Il y a la première lecture diplomatique. Et comme disait Roselyne tout à l'heure, on n'est vraiment pas sorti de l'affaire. Ça va aller de mal en pis. Parce qu'il ne faut pas oublier...
Ça peut aller jusqu'où la dégradation des relations peut aller
rupture des relations diplomatiques, telle qu'on est parti là. Mais pour ça, il faudrait que...
Il y a encore des relations diplomatiques, là, aujourd'hui?
Oui, il y a un chargé d'affaires là-bas, il y a un chargé d'affaires ici, côté algérien, français, là-bas. Et puis, il y a encore un dialogue, si vous voulez. Et ce que je sais...
Fermeture de consulat,
d'ailleurs, qui a été la menace qui a été donnée par Monsieur Retailleau. Et puis, je le sais, il y a un dialogue entre Monsieur Tebboune et Monsieur Macron. Ils n'ont pas rompu le dialogue. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça peut aller très très loin. Il y a aussi des émissaires, des éminences grises qui agissent dans l'ombre pour essayer de recoudre un peu les morceaux, enfin ou le tissu.
Ils bossent pas très bien en ce moment.
Bah si, parce que c'est long, vous savez. Chacun a sa fierté. Et Dieu sait si elle est grande.
Mais il y a aussi les déclarations qu'on fait publiquement qui peuvent aussi jeter l'huile sur le feu.
Je vais en venir là. Donc ça, c'est la dimension diplomatique. Ouais. C'est pas fini. Et en plus, il y a à l'intérieur de l'Algérie et de la France une dimension politique. Parce que M. Tebboune est en situation de faiblesse en Algérie, il faut le savoir, il est en position de faiblesse, il est tenu par l'État profond, un régime qui est un régime tenu par les militaires. Et ça, il faut le savoir, on le dit pas suffisamment. Et deuxièmement, ici, il y a une surenchère vis-à-vis de Monsieur Retailleau, entretenue par le Rassemblement national qu'on aura tout à l'heure au téléphone, et qui dit, voyez, vous regardez, Retailleau les dérange parce que justement, il est très ferme, donc ils veulent sa peau.
Mais alors justement,
en le poussant dans ses retranchements, ils espèrent qu'il va démissionner.
On va retrouver, il n'y a pas que le Rassemblement national d'ailleurs qui est sur le dos de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez notamment, mais aussi pour des questions de politique interne au sein des Républicains. On va en parler dans un instant, on sera en direct dans une minute avec Sébastien Chenu. Juste Christophe Barbier, riposte graduée. Je disais, ça veut dire donc il va y avoir plusieurs étapes. Là, c'est la première étape, revenir sur les accords de 2007. Ça peut aller jusqu'où?
Jusqu'aux accords de 68.
Mais alors précisément ces accords de 68, parce qu'on a tout entendu, tout et son contraire autour de ces accords de 68 qui, nous dit-on, accordent un statut différent, un régime dérogatoire aux ressortissants algériens, sauf que cet accord, il a été revu à plusieurs reprises.
94 notamment.
Qu'aujourd'hui, réellement, il accorde un statut différent aux Algériens?
Oui, il accorde un statut différent parce qu'ils ne sont pas comme les Marocains ou les Tunisiens. Mais ils ne sont pas comme ce qu'ils étaient avant 68, c'est-à-dire dans la prolongation de 62. Et en 62, l'Algérie, c'était la France, pour reprendre le mot de Mitterrand. Il y avait des aspects dans cet accord de 68 pénalisant les Algériens. Par exemple, pour les étudiants, c'était moins facile. Pour ceux qui étaient dans des professions dites sous tension en France, qui doivent faciliter l'immigration, ce n'était pas favorable pour les Algériens. Donc, ils auraient intérêt aussi peut-être à remettre sur la table certains points. Mais on n'en est pas là, il y a deux choses prioritaires. Dans cette riposte graduée, on peut d'abord prendre les Algériens à leurs propres mots. Et dire très bien. Et demain matin, déposer dans les 60 préfectures concernées les 60 dossiers en disant vite un laissez-passer consulaire pour ces 60-là. On verra bien si la procédure d'usage marche. Sinon, les Algériens montreront leur mauvaise volonté puisque même la procédure d'usage sera
refusée. Ils n'ont pas déjà montré leur mauvaise volonté.
Et là-dessous, il y a deux choses. Il y a la discussion qu'on a avec les services de renseignement algériens sur l'islamisme. Il faut que les services à bas bruit en coulisses continuent à se parler. Puis il y a quand même un cas très important à mettre sur la table de toutes les négociations. C'est Bolem Sansal. à quel moment on peut obtenir la libération de Boualem Sansal, quitte à ce que sur les OQTF, on perde 6 mois, on se débrouillera, on les mettra en centre de rétention. C'est plus important pour moi de récupérer Boualem Sansal que d'expulser à quelques mois près ces 60-là.
Bonsoir Sébastien Chenu, vous êtes le vice-président du Rassemblement National, député du Nord, en direct de l'Assemblée Nationale. Je précise juste que ce soir, les députés débattent de la proposition de loi sur pour lutter contre le narcotrafic. Voilà pourquoi vous êtes encore à l'Assemblée Nationale à cette heure-ci. L'Algérie, Sébastien Chenu, a donc refusé de répondre à la demande de Bruno Retailleau de reprendre une soixantaine de ses ressortissants. Est-ce un camouflet pour la France ou pour Bruno Retailleau?
C'est évidemment une humiliation d'abord pour notre pays, c'est une provocation, c'est une humiliation pour la France, pour le ministre de l'Intérieur qui n'est pas pris au sérieux, qui avait donné 6 semaines en transférant une pauvre petite liste de 60 noms et en quelques heures le gouvernement algérien l'a renvoyé dans les cordes avec un mépris, un sens de la provocation qui évidemment abîme la relation que nous avons avec l'Algérie, parce que moi je ne confonds pas évidemment le gouvernement algérien et la population algérienne, mais nous avons en France un vrai problème avec les délinquants algériens. Je vous rappelle que le nombre d'Algériens en 10 ans a augmenté de 23% en France, mais le nombre de détenus algériens dans nos prisons a augmenté dans ces mêmes 10 années de 117%. Donc on a un vrai problème avec des délinquants qui sont algériens, dont certains effectivement sont sous OQTF et que l'Algérie devrait reprendre, qu'elle ne veut pas reprendre, et pour lesquels, je suis désolé de le dire, le gouvernement est bien faible.
Avant même ce refus d'Alger, vous affirmiez que Bruno Retailleau avait déjà cédé. Qu'est-ce qu'il a cédé? Parce qu'au final, il a fixé un ultimatum. L'Algérie refuse cet ultimatum. Il passe aux sanctions avec donc une première étape qui a été annoncée, la suspension des accords de 2007. Qu'aurait-il pu faire différemment? Qu'est-ce que vous auriez fait?
Mais madame, pour faire un bras de fer, faut avoir un bras. Donc ça veut dire qu'il faut mettre sur la table tous les éléments qui vous permettent de faire pression. Là, Bruno Retailleau agite les accords de 2007 qui sont uniquement sur les passeports diplomatiques. Mais vous avez des tas de leviers que vous pouvez
activer. C'est le principe de la riposte graduée, vous y allez par étapes.
Mais justement, nous considérons qu'il ne faut pas perdre de temps. Ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement des OQTF à reprendre, que l'Algérie doit reprendre, mais aussi parce que Boualem Sansal est en prison. Quand Gérald Darmanin a ouvert 20 consulats supplémentaires sur notre territoire, 20 consulats algériens, qu'est-ce qu'on a eu en échange? En échange de quoi? Quand on accueille des imams pour le ramadan, c'est en échange de quoi? En fait, tout ça, nous ne l'aurions pas fait. Et puis évidemment, il y a un accord qui arrive, un accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Il faut faire pression, cet accord, il est très au bénéfice de l'Algérie. Il faut faire pression. Vous avez évidemment pas uniquement les visas diplomatiques, vous avez pas uniquement les passeports diplomatiques, vous avez les visas sur lesquels il faut évidemment faire une pression énorme. Vous avez l'aide au développement, vous avez la pression à faire sur la mosquée de Paris et ses 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Vous avez énormément de leviers à activer.
Mais alors justement, aujourd'hui, parmi les leviers, Sébastien Chenu, timide. Parmi les leviers d'action qui sont évoqués, notamment par Marine Le Pen ce soir sur les réseaux sociaux, effectivement, vous l'avez dit, notamment l'aide au développement, mais aussi le blocage des transferts de fonds privés. Vous disiez il y a quelques minutes, il ne faut pas confondre le gouvernement algérien et la population algérienne. Et là, vous voulez bloquer les fonds, le transfert des fonds privés, ça veut dire que ça va être extrêmement pénalisant pour les Algériens qui vivent en France.
Pas uniquement, c'est une façon de faire pression, nous devons activer tous les leviers, et c'est parce que sa population sera évidemment ennuyée, empêchée, que le gouvernement serait obligé de bouger, évidemment. Mais si nous ne faisons rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un régime algérien qui va continuer à se moquer de nous, qui va continuer à faire traîner les choses, qui va laisser mourir Boualem Sansal dans ses geôles, parce que le régime algérien n'a strictement rien à faire de l'image qu'il renvoie à la communauté internationale, et nous avons un pays qui chaque jour est davantage humilié. C'est-à-dire que nous avons beaucoup donné et nous donnons beaucoup à l'Algérie, que ce soit, je l'ai dit, en argent, en soutien économique, mais également, je vous l'ai dit, en ouvrant ici ce qu'a fait Gérald Darmanin, 20 consulats supplémentaires. Et qu'est-ce qu'il y a en retour dans ce partenariat? Il y a un régime qui refuse de reprendre ses délinquants. Ce n'est pas possible, la situation ne peut pas se faire, la réponse ne peut pas être graduée, on ne peut pas tous les mois envoyer une lettre ou demander implorer à genoux, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez regarder? Non, il faut un moment faire preuve de force. D'ailleurs, le régime algérien, et c'est l'ancien ambassadeur de France qui en parle le mieux, Xavier Driancourt, dit que le régime algérien ne respecte que la force. La France n'est pas forte avec ce gouvernement.
Guillaume Fard.
Sur les transferts d'argent, moi je suis très dubitatif, parce qu'il est, sans citer de marque, il existe pléthore d'applications mobiles de transfert d'argent, et je vois pas très bien comment on pourrait empêcher quelqu'un de disposer de son argent et de l'envoyer à quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète. Mais je voudrais simplement revenir
sur... C'est pas un levier plausible.
Oui, je voudrais revenir sur un point très précis qui est la question de la fermeté vis-à-vis de l'Algérie et de Monsieur Doualem. Parce que il y a un cas qui est un cas d'école qui s'est présenté. Le ministre de l'Intérieur a voulu renvoyer l'influenceur Doualem en Algérie. Il a posé les pieds à Alger et il y a eu retour à l'envoyeur. Comment est-ce que le Rassemblement national, s'il avait été en responsabilité à ce moment-là, aurait empêché qu'il remonte dans l'avion pour la France? Est-ce qu'il aurait pris le risque, par exemple, que les Algériens emprisonnent nos deux policiers de la police aux frontières qui ont réalisé cette escorte? Enfin, comment concrètement, eux, s'y seraient pris? C'est une question que je voulais poser à la place de M. Retailleau, dans ce cas très précis de quelqu'un qu'on a expulsé, qui est algérien, qui a posé les pieds en Algérie, mais que les Algériens ont contraint à ce que les Français le reprennent.
Je vous rappelle que c'est la loi, et notamment un amendement des Républicains que présidait Bruno Retailleau au Sénat, qui a permis ce cas de figure. Donc c'est la loi qu'il faut évidemment modifier. Mais de toute façon, vous nous dites, vous nous découragez tout de suite en nous disant finalement, les transferts d'argent, c'est pas possible, les transferts d'argent, il ne s'agit pas d'empêcher des transferts d'argent, il s'agit de les taxer et de les surtaxer, par exemple, voyez-vous.
Ce n'est pas
uniquement les empêcher. Oui, mais c'est une façon aussi de faire pression. Donc on a toute une palette de leviers, et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre quand vous dites, mais vous auriez fait quoi? Ben, nous, on vous explique qu'il y a des tas de solutions, des tas de leviers activés qui ne sont pas activés. Pour quelles raisons? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que la France n'active pas ses leviers sur les visas, sur l'accord avec l'Union européenne, sur
mais tout ce que je vous ai indiqué, sur la pression sur le gel des visas? Enfin, encore une fois, ça a déjà été fait et ça n'a pas fonctionné. C'est Jean-Noël Barrot qui le disait. Il disait que le gel des visas en 2021 n'avait pas été efficace, et il disait qu'en revanche, la signature d'un accord de coopération en 2022 avait permis de tripler les expulsions des étrangers en situation irrégulière, et c'est pour ça qu'ils prennent davantage pour un dialogue diplomatique plutôt qu'un bras de fer.
Alors là encore, tout ça est assez faux, parce qu'en fait, quand vous dites tripler les expulsions, on n'est pas revenu au niveau de l'avant-Covid. Donc en fait, on part de très loin. Donc ça ne veut rien dire de dire tripler. On parle de quoi? Je vous rappelle que ce sont les Algériens qui sont aujourd'hui la deuxième communauté étrangère qui est le plus accueillie dans notre pays après le Maroc, de mémoire. Donc si vous voulez, on a un effet excessivement important de gens qui viennent parce qu'ils bénéficient des accords de 68, les accords de sécurité sociale. Tiens, voilà encore un accord qui donne une prééminence, une prévalence, en tous les cas pour les Algériens, qui les aligne sur les Européens. Les accords de la sécurité sociale, nous pourrions là aussi les revoir. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'Algérie doit 45 millions d'euros aux hôpitaux français. Ça aussi, ça semble ne pas préoccuper ce gouvernement. Vous voyez, les accords de sécurité sociale, ça aussi, on peut les revisiter. Pas uniquement les accords de 68. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de dossiers à mettre en œuvre, à ouvrir, en tous les cas. Et moi, je trouve que ce gouvernement est très timoré, parce qu'Emmanuel Macron, tout en haut, l'a dit, il n'est pas question de remettre en cause les accords de 68, et qu'Emmanuel Macron, parce qu'il a peur de la réaction de la communauté franco-algérienne en France, et d'ailleurs, en disant ça, il pense qu'elle va prendre forcément parti, fait et cause, pour le gouvernement algérien, ce qui est probablement mal connaître la communauté franco-algérienne en France, parce qu'Emmanuel Macron a peur de cette réaction, eh bien, il ne veut pas bouger.
Yves Tréhard.
Non, oui, effectivement, il y a les accords de 1982 sur la sécurité sociale. La seule chose qu'on peut dire aussi, c'est que les accords de 1968 ne peuvent être rompus que par le président de la République. Ce ne sont pas des accords, c'est un traité international. Donc seul le président de la République peut les...
Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a émis sa démission dans la balance, il n'était pas sur ce dossier-là.
Deuxième chose...
Raison pour lesquelles on vous dit qu'il y a d'autres leviers, qu'on ne focalise pas uniquement sur... Et d'ailleurs, ce qu'a dit Marine Le Pen, on ne focalise pas uniquement sur les accords, l'aide au développement.
Ça ne pourra se régler que sur un plan diplomatique, cette histoire, parce que de toute manière, l'Algérie, on les connaît, va faire monter les enchères. Troisième chose que je voudrais quand même remarquer, si on exclut le contexte des rapports, des relations franco-algériennes qui sont détestables aujourd'hui, c'est que ça fait des années et des années que tous les pays dont sont issus nombre de OQTF nous refusent de laisser passer consulaires. Non. Mais attendez, il y en a que 6% qui sont exécutés.
Et pour aller dans ce sens, même arrivé qu'avec beaucoup de mauvaise foi, l'Algérie refuse que des avions du ministère de l'Intérieur se posent sur le sol algérien, alors même que leurs passagers étaient tout à fait en règle du point de vue de l'expulsion. Donc en fait, il y a une mauvaise foi effroyable, et c'est pour ça que je posais la question à laquelle je n'ai pas tout à fait eu la réponse. Dans le cas de l'influenceur Doualem, qu'est-ce qui aurait été différent si le Rassemblement National avait été en responsabilité? Puisque quand les Algériens vous disent, non mais celui-là il repart, qu'on le met dans l'avion et qu'on menace d'emprisonner des policiers français par mesure de rétorsion si on ne s'exécute pas, est-ce qu'eux seraient allés au bras de fer? Est-ce qu'ils auraient empêché l'avion d'Air Algérie d'atterrir à l'aéroport de Roissy, par exemple?
On aurait d'abord commencé effectivement par revoir les accords de 68, en tout cas par les abroger et les rompre, parce qu'en fait on ne peut évoluer dans un cadre qu'à partir du moment où ce cadre est équilibré, et on ne peut se retrouver dans des cas de figure comme ceux que vous décrivez et les voir aboutir à partir du moment où on évolue dans un cadre qui est équilibré. Or les accords de 68 déséquilibrent rééquilibre la relation franco-algérienne. Mais je rappelle qu'il y a des pays avec lesquels, sur d'autres sujets, par exemple sur les mineurs non accompagnés, ça se passe mieux. Par exemple avec le Maroc, ça se passe pas trop mal. C'est même notre administration, en réalité, qui n'applique pas correctement les accords avec le Maroc sur les mineurs non accompagnés, parce qu'elle juge que les mineurs non accompagnés ne seraient pas bien accueillis au Maroc. Donc là, c'est même l'administration française. Donc il y a des pays avec lesquels ça avance mieux. Mais on voit bien que Emmanuel Macron, parce que Yves Tréhard disait ça se règle au niveau international, et je suis d'accord avec lui, que la pression que devrait mettre Emmanuel Macron, elle ne vient pas. Elle met Bruno Retailleau dans une situation intenable, mais il le savait déjà, c'est-à-dire celle de ne pas avoir de résultats. Et aujourd'hui, je crois que c'est la peur qui guide Emmanuel Macron, et c'est l'incapacité à agir qui guide Bruno Retailleau.
Alors justement, la faute à qui ? La faute à qui ? À Emmanuel Macron ou à Bruno Retailleau ? Parce qu'on a entendu beaucoup de critiques de la part du Rassemblement National sur le manque de fermeté de Bruno Retailleau. Est-ce que vous appelez, comme on a pu l'entendre chez certains opposants, à sa démission ? Est-ce que vous dites qu'il doit en tirer les conséquences aussi ?
Non mais ils sont liés. Mais qu'est-ce que Monsieur Retailleau est allé faire dans cette galère, à part vouloir, en devenant ministre, piquer la place de Laurent Wauquiez comme candidat naturel des Républicains à la présidentielle ? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans ? Il est dans un gouvernement dans lequel le socle qui le soutient est à moitié socialisant, à moitié socialiste, et refuse à travers cette partie du bloc central de revoir les accords de 68. Le président de la République ne veut pas les revoir. Il y a des ministres, je pense à Elisabeth Borne ou le ministre des Finances Monsieur Lombard, qui ne veulent pas revoir ces accords. Et Bruno Retailleau se retrouve dans cette situation intenable. Donc il y est allé pour faire avancer son agenda personnel et pas l'agenda de la France. Et ça, c'est pas acceptable, voyez-vous.
Merci beaucoup Sébastien Merci. Chenu d'avoir été notre invité ce soir. Est-ce que cette réponse d'Alger met Bruno Retailleau donc sous pression ? Le ministre de l'Intérieur a dit ce week-end, je le disais, qu'il n'hésiterait pas à mettre sa démission dans la balance si le gouvernement cédait sur ce dossier. Et depuis, les appels à la démission se multiplient. C'est l'œil de Raphaël. Appel à la démission, en tout cas vive critique, notamment de Laurent Wauquiez, Raphaël, qui accorde ce soir une interview dans laquelle il veut jouer la carte de l'apaisement vis-à-vis de Bruno Retailleau.
Oui, alors hasard du calendrier total, puisque l'interview est sortie, je crois, à 18h30 au Parisien, et l'annonce de l'Algérie a été faite à 18h20. Et donc, il parle...
C'est un complot.
Oui, exactement.
Et, tout est orchestré.
Et Laurent Wauquiez, oui, qui, on va dire, caresse Bruno Retailleau dans le sens du poil, mais de
plus
façon...
Moins.
Voilà, plus ou moins, où il explique que... Alors, il parle notamment, en fait, il entame notamment le sujet sur la présidence DLR, où il explique qu'il veut, je cite, un duo... et pas un duel, à une petite condition. On va voir l'extrait, le premier extrait que j'ai choisi, c'est que ce soit lui le chef. Hein.
Ce que dit Laurent. Il y a toujours un cocu dans l'histoire.
Exactement, Rosine. Laurent Wauquiez qui dit, comme président, je proposerai immédiatement à Bruno Retailleau d'être le premier vice-président du parti. Exactement.
Et forcément, on arrive très vite au sujet de l'Algérie.
Oui, alors d'ailleurs, ce que dit Laurent Wauquiez ressemble quand même énormément à ce qu'on vient d'entendre de la part de Sébastien Chenu, avec une pression, notamment une critique sur l'ensemble de l'exécutif. Hein, l'exécutif a choisi de capituler sans même mener le combat. Alors, quand on lit l'exécutif, on entend l'ensemble de l'exécutif, et donc... on va dire indirectement, Bruno Retailleau, même s'il s'en défend, c'est quand même une façon de l'attaquer. Et puis d'ailleurs, comme le RN, comme Sébastien Chenu à l'instant, comme Jordan Bardella, pour Laurent Wauquiez, eh bien Bruno Retailleau doit sévir ou partir. Sévir, évidemment, sur les accords de 68, on vient d'en reparler. Si le président de la République refuse de les dénoncer, rester au ministère de l'Intérieur n'a pas de sens. Effectivement, comme vous le disiez à l'instant, tout ça dépend de toute façon du président de la République. Et ça tombe bien, il y a une information BFM TV qui est parvenue au service politique. Bruno Retailleau et Emmanuel Macron se sont parlé de ce sujet. Enfin, il y a quelques jours...
Il y a quand même un éléphant dans la pièce, là. C'est le Sahara occidental. On en parle.
Alors ça, oui, bah, quand on parle d'un sujet présidentiel...
On parlait des relations avec le Maroc, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont plus faciles.
Relations pourries avec le Maroc, complètement vitrifiées, avec vraiment, rappelez-vous, au moment du tremblement de terre, des propos extrêmement francophobes. Et là, il y a eu un choix politique qui se justifie. Pour ça, j'aurais aimé interroger Monsieur Chenu sur c'est quoi, parce que c'est tout part de là.
Oui, c'est la reconnaissance par la France du Sahara occidental.
Il y a beaucoup de Maroc, marocanité, de la marocanité,
oui,
du
Sahara occidental. Mais simplement pour conclure,
il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Ça a été un élément déclencheur.
Mais pour conclure, ce que je disais, c'est que Bruno Retailleau et Emmanuel Macron se seraient parlé, et Emmanuel Macron aurait donné en quelque sorte une assurance à Bruno Retailleau, donc de sa fermeté, c'est-à-dire s'il faut dénoncer les accords de 68, on ira jusqu'à dénoncer les accords de 68.
Enfin, c'est ce que nous dit un proche du chef de l'État, c'est qu'effectivement le président de la République est prêt à être ferme, voilà. Parce que Bruno Retailleau avait mis, je le disais, sa balance dans la démission ce week-end.
Sa démission dans la balance plutôt que sa balance dans la démission.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu bizarre dans ce sens-là. Ça vous avez bien fait de me reprendre. Sa démission dans la balance, si effectivement il n'était pas suivi sur ce sujet-là par Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a un message à l'exécutif qui est adressé, mais parce que Raphaël est en train d'expliquer, il y a un message aussi qui est adressé clairement aux électeurs des Républicains dans le cadre, Roselyne, de cette guerre avec Laurent Wauquiez.
Comme en Algérie, ouais. En France, le débat est complètement pourri par les options de politique intérieure.
Par les enjeux
évidemment.
Internes.
Oui, évidemment.
Bonsoir Patrick Stefanini. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes représentant spécial du ministre de l'Intérieur. Vous avez écouté, j'imagine, Sébastien Chenu qui dit que la France a été humiliée, qu'on n'est pas suffisamment ferme, qu'on n'est pas capable de répondre à cette provocation de l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez, vous, ce soir, à Sébastien Chenu ?
Ben, je vous ai tous beaucoup entendu parler des accords de 68, mais le problème qui est devant nous, c'est l'accord sur la réadmission, qui, lui, si j'ai bonne mémoire, date de 1994, c'est-à-dire l'accord qui définit les conditions dans lesquelles la France peut renvoyer en Algérie soit des clandestins, soit des personnes ayant troublé l'ordre public. Alors, le Premier ministre a réuni à la fin du mois de février, le 26 février, un comité interministériel dont j'ai été pendant 4 ans le secrétaire général entre 2005 et 2009, qui s'appelle le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et ce comité a adopté une stratégie de riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est cette stratégie de riposte graduée qui va être mise en œuvre. Et Bruno Retailleau l'a dit ce soir, la première étape de cette riposte graduée, ça va consister à remettre en cause un accord qui date de 2007, qui a été signé entre M. Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et son homologue algérien, et qui permet aux titulaires de passeports diplomatiques algériens, donc ce sont les diplomates, mais ce sont également des militaires et ce sont des représentants des milieux d'affaires, d'être exonérés de visa, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir en France sans avoir à solliciter un visa. Donc il est probable, hein, moi je ne suis pas là pour faire les annonces du gouvernement, mais dans la gamme des mesures sur lesquelles le gouvernement peut jouer, il est probable que la première mesure pourrait consister à supprimer cette dispense de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, et probablement, parce qu'à partir du moment où on rétablit l'obligation de visa pour les intéressés, la France peut être conduite à prononcer des refus de visa, et probablement le gouvernement activera-t-il aussi une disposition qui figure dans le code communautaire des visas et qui nous permet de faire savoir à nos partenaires de Schengen que nous avons refusé un visa à une personnalité algérienne.
Mais alors expliquez-nous justement les étapes suivantes, parce qu'on a bien compris, donc cette riposte graduée, première étape, les accords de 2007, ça concerne les diplomates. Et ensuite, vous avez entendu Sébastien Chenu qui disait un bras de fer, d'accord, mais encore faut-il avoir un bras pour ça, encore faut-il avoir des leviers d'action suffisamment efficaces. Et il énumérait un certain nombre de leviers possibles, notamment le gel des visas, mais pour tout le monde, le blocage de l'aide au développement, le blocage des transferts de fonds privés ou la taxation des transferts de fonds privés. Est-ce que c'est le là font partie de cette riposte graduée qui est envisagée par le ministre de l'Intérieur ?
Il me semble que le Premier ministre avait été très clair à l'issue du comité interministériel de contrôle de l'immigration. Il avait dit que la France mettrait en œuvre une stratégie de riposte graduée et que cette stratégie pourrait aller jusqu'à la dénonciation des accords de 1968. Mais nous sommes ce soir en face d'une décision de l'État algérien qui a refusé de reprendre en compte une soixantaine de ressortissants algériens frappés de QTF, pour l'essentiel pour des motifs d'ordre public. Et je ne suis pas venu vous commenter la phase 2 ou la phase 3 de la riposte graduée. Je suis venu vous commenter ce que pourrait être la phase 1 de cette riposte.
Mais elle est déjà établie, la phase 2 et la phase 3. Vous l'avez déjà en tête ou vous allez improviser au fur et à mesure ?
J'ai le sentiment qu'après la réunion du comité interministériel, Comme l'a dit l'un de vos correspondants, le président de la République s'est entretenu avec Bruno Retailleau et que donc l'extension de la riposte graduée à des mesures plus larges que le seul rétablissement de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques figure d'ores et déjà dans les tiroirs du gouvernement et pourrait être actionnée dans un deuxième temps. Pour le reste, je voudrais, comme l'a fait Madame la Ministre que je salue, je voudrais rappeler qu'en effet, la crise qui marque aujourd'hui les relations entre la France et l'Algérie, elle n'est pas au départ une crise sur les questions migratoires. Il y a toujours eu des difficultés en matière migratoire avec l'Algérie, mais ce qui a conduit au pic de la crise, c'est la prise de position de la France sur le dossier du Sahara occidental. Ça, c'est la responsabilité du président de la République qui mène, qui conduit la politique étrangère de la France, et les membres du gouvernement font avec. Donc Bruno Retailleau est partisan d'une politique de fermeté avec l'Algérie. Il l'a redit ce soir. Je crois que cette politique de fermeté, elle est parfaitement comprise par les Français. Et je pense que les Français seront ravis de constater dans les jours qui viennent que le gouvernement français passe aux actes.
Merci Patrice Stefanini d'avoir été notre invité ce soir. Guillaume, un commentaire ?
Passer aux actes, mais alors qu'est-ce qu'était l'expulsion de l'influenceur Doualeb si ce n'était un passage à l'acte, ouais. Alors un passage à l'acte raté, parce que pour l'heure il est en France, alors qu'il y a eu une tentative de l'envoyer en Algérie, ou est-ce qu'on a joué au bras de fer sans avoir fait de la musculation avant ? J'ai pas très bien compris la séquence, mais toujours est-il que c'était un pétard mouillé cette affaire.